La vie des idées avec Mathieu Bock-Côté.
Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. Lorsque je réfléchis au capitalisme et plus particulièrement à sa critique ou même à l'anticapitalisme, je ne cesse d'être frappé par un paradoxe. Au XXe siècle, alors que le capitalisme était intimement lié à la civilisation démocratique, il était la cible d'une critique incessante, virulente et souvent délirante de ceux qui rêvaient du socialisme et du communisme, même si la traduction concrète de ces idéologies conduisait chaque fois au désastre. Mais aujourd'hui, alors qu'il est tout-puissant, hégémonique et déploie son potentiel révolutionnaire à la grandeur du monde, la critique du capitalisme est étonnamment discrète. Plus étonnant encore, la critique de la mondialisation s'impose davantage à droite qu'à gauche, même si on doit garder à l'esprit la poussée électorale relativement récente d'un Bernie Sanders en 2016, on s'en souvient. Peut-on encore critiquer le capitalisme, et si oui, sur quelle base? Pour en parler, je reçois Simon-Pierre Savard-Tremblay, doctorant en sociologie, blogueur Journal de Montréal et animateur le vendredi sur ses ondes de l'émission Économie et Société, à 11h si je ne me trompe pas.
Exactement.
Simon-Pierre Savard-Tremblay, bonjour.
Bonjour Mathieu, merci de votre invitation.
Alors, une question première sur ce grand thème, en fait, de ce qu'on pourrait appeler la critique du capitalisme aujourd'hui. Alors, la critique du capitalisme est un peu disparue. C'était un peu naturel au lendemain de la chute du communisme, après l'effondrement de l'Empire soviétique. Mmh. Elle est disparue du radar pendant plusieurs années alors que le capitalisme, effectivement, était à ce moment-là absolument triomphant. À quel moment, cela dit, peut-on dire que réapparaît un sentiment critique d'inquiétude ou d'angoisse par rapport aux effets potentiellement dévastateurs du capitalisme? Est-ce que c'est immédiatement lié, par exemple, au mouvement altermondialiste? Est-ce que c'est lié aux grands accords de commerce internationaux? À quel moment ressurgit une critique du capitalisme après ce qu'on pourrait appeler son triomphe du début des années 90?
Ben écoutez, vous l'avez dit, après la chute du mur de Berlin, après la fin du bloc soviétique, puis aussi parallèlement à ça, la Chine qui maintenait le nom de communisme et qui n'en a plus rien dans son système économique, on nous parlait de la fin de l'histoire. Vous vous souvenez évidemment de ces paroles prophétiques de Francis Fukuyama, c'était la fin de l'histoire, en référence au fait que maintenant, il n'y aurait plus finalement de ce type de conflit-là, qu'il n'y aurait qu'un seul grand modèle et que celui-ci allait s'inscrire dans la permanence et dans l'avenir. On peut parler du 11 septembre 2001 comme un rappel que le monde sans frontières, du doux commerce qui aurait uni le monde entier n'est pas advenu. On peut s'en rappeler, mais ça, c'en est davantage le témoignage. Parce que la critique, elle était toujours là. On sait qu'à chaque sommet qu'il y avait, on en avait eu un à Québec avant même les fameux attentats du 11 septembre, également en 2001, la barrière de sécurité avait sauté parce qu'il y avait eu des émeutes et des manifestations. Donc la critique de ce capitalisme-là, elle n'est jamais vraiment disparue dans certains cercles militants et surtout pas dans certains cercles intellectuels. Mais on se rappelle au début des années 2000, autour de l'accord multilatéral sur l'investissement, même ici au Québec, il y avait eu un collectif, un livre qui s'appelait « Le monde enchaîné » qui avait été co-dirigé par Michel Freytag et Éric Pinault. Donc c'est une critique qui n'est jamais complètement disparue non plus.
Mais alors, j'en conviens parfaitement, mais cette critique était... c'est un peu refoulé, on pourrait dire, dans une gauche qui n'était même plus majoritaire dans son propre camp. C'est-à-dire la gauche, en général, s'était convertie aux questions sociétales, identitaires, culturelles. Et il y avait quelque chose presque d'archaïque, à tout le moins du point de vue du débat public, chez cette gauche qui persistait à critiquer le capitalisme d'une manière ou de l'autre. Vous évoquez effectivement la mouvance altermondialiste, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que cette critique-là n'avait pas quelque chose de folklorique? C'est-à-dire on faisait le procès du système capitaliste ou de la mondialisation sans savoir qu'est-ce qu'on pouvait y opposer. Et je vous donne un exemple tout de suite. Le mouvement altermondialiste est d'abord nommé le mouvement antimondialiste. Et il a rapidement changé de nom, comme si cette gauche ne voulait pas néanmoins s'opposer à l'idée de mondialisation, mais en proposait une toute autre mondialisation. Est-ce qu'on ne peut pas voir que dans cette critique dite d'une certaine gauche plus radicale, est-ce qu'elle ne consentait pas elle-même, par son passage de l'antimondialisme à l'altermondialisme, à une des facettes centrales du capitalisme contemporain?
Absolument, c'est une des contradictions de ce mouvement-là, qui est l'altermondialisme, qui est finalement de contester la mondialisation capitaliste comme elle l'est, mais de refuser de pleurer ce qu'elle détruit. C'est-à-dire qu'en quelque part, on se satisfait, on est content qu'il y ait un dépassement du vieux modèle de l'État-nation. Moi, j'avais interviewé il y a un an sur mon blog du journal José Bové, par exemple, qui faisait une critique très sensée. Mais à la dernière question, faut-il revenir à l'État-nation? Il dit non, c'est dépassé, faut pas revenir à ça, c'est le passé. Bon, c'est la contradiction de ce grand mouvement-là. C'est de ne pas tenir pour acquis, de ne pas considérer que pour qu'on renverse, si on peut dire, ce système-là, il faut s'ancrer dans une communauté réelle, une communauté d'esprit, une communauté au moins, à tout le moins, qui a une certaine conscience d'appartenir à une communauté. Et dans ce cas-là, ce serait l'État-nation, ce serait le modèle national. Ça ne veut pas dire que ce serait un retour intégral à l'État-nation qu'il y avait, par exemple, pendant les Trente Glorieuses, pendant les années de l'après-Seconde Guerre mondiale. Il y aura toujours des rapports de coopération entre les nations, mais tant qu'ils gardent un contrôle démocratique des peuples sur les destinées de leur collectivité. Puis c'est pourquoi aujourd'hui, le mouvement le plus intéressant, à mon sens, c'est celui de la démondialisation. Ce n'est pas l'altermondialisme. D'ailleurs, l'altermondialisme est essoufflé, il est en perte de vitesse.
Vous évoquez, et on évoquait en fait ensemble, la question, les termes de cette critique du capitalisme, et c'est sur ça que j'aimerais vous diriger pendant un instant, pendant un moment, c'est-à-dire au moment, au temps fort du socialisme triomphant et prophétique, on critiquait le capitalisme au nom d'un tout autre modèle. C'est-à-dire, c'était le modèle socialiste, c'était la société communiste, c'était une société qui prétendait offrir, qui offrait une alternative finalement, qui nous a conduit par ailleurs au désastre que l'on sait, au totalitarisme, au goulag, bon. Mais il y avait néanmoins un contre-modèle qui était braqué contre le capitalisme. Mais à partir du moment où il n'y a plus de contre-modèle, au nom de quoi aujourd'hui, vous enseignez la sociologie économique à l'Université Laval, au nom de quoi aujourd'hui critique-t-on le capitalisme? Est-ce qu'il s'agit d'utopie localiste? Est-ce qu'il s'agit simplement d'un repli dans l'intime? Est-ce qu'il s'agit de l'espérance d'une gouvernance mondiale de gauche ou néo-socialiste? Donc, dans la mesure où il n'y a pas de contre-modèle disponible, à tout le moins qui ne sont pas particulièrement connus, au nom de quoi aujourd'hui critique-t-on le capitalisme?
Ben écoutez, vous le savez, vous avez fréquenté l'UQAM, vous aussi. Il y a de tout. Il y a de toutes les tendances, il y a de toutes les chapelles par rapport à ça. Au nom de quoi critique-t-on le capitalisme? Je dirais qu'on en critique peut-être plus souvent si on regarde à la lumière des mouvements qu'on appelle à tort probablement populistes dans le monde entier. On en attaque davantage peut-être les conséquences que les causes. On en attaque toujours le bout de la chandelle. On en attaque toujours ce qui est le plus évident. Avec raison, quand on est un mouvement électoral, on mise sur la communication politique, donc on mise sur les effets les plus évidents, les effets les plus conscients. Ceci étant, vous avez parlé tout à l'heure de ces fameux mouvements-là. Mis à part Donald Trump, je n'en vois pas qu'il soit arrivé à l'emporter.
Vous ne voyez pas une critique d'une certaine idée de la mondialisation dans le Brexit, par exemple?
Oui, le Brexit, bien entendu. Effectivement, vous faites bien de le mentionner, mais plusieurs qui ont peut-être pu réussir, comme par exemple le référendum grec à l'été de 2015, où les Grecs ont rejeté massivement le plan de l'Union européenne, le plan d'austérité budgétaire de l'Union européenne. À ce moment-là, on a vu que peu après, ils se sont très, très rapidement couchés. On peut parler de percées importantes comme Podemos en Espagne. Vous l'avez parlé de Bernie Sanders aussi, de Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, il y en a plusieurs qu'on peut mentionner.
Alors, vous savez,
mais aucun n'est arrivé véritablement à un franc succès.
Mais là, je vous arrête tout de suite. Vous nous dites Trump, vous nous dites Podemos, vous nous dites Mélenchon.
C'est étrange dans la même phrase.
Et là je crois comprendre vers où vous allez, mais je vous pose néanmoins la question. C'est-à-dire, je devine que pour l'auditeur qui nous écoute en ce moment, Trump et Mélenchon dans la même phrase, ça ne va pas ensemble. Pourtant, vous le mettez dans la même phrase. Qu'est-ce qui unit au-delà de ce qui les divise? Par exemple, un Trump et un Mélenchon, au-delà du fait que l'un est président et l'autre a échoué sa présidence, qu'est-ce qui les unit à tout le monde? Pourquoi les mettez-vous dans une même catégorie?
Ben, Trump a habilement compris que pour gagner ces élections, il fallait gagner certains États bleus, certains États clés qui
des
étaient.
États bleus, c'est-à-dire des États démocrates ou des États travaillistes.
Ben, comme le Massachusetts. Pas le Massachusetts, non. Pardon, le Michigan. Non, le Massachusetts, il était loin du compte. Le Michigan, pardon. Des États qui, de manière surprenante, avaient voté aux primaires pour Bernie Sanders plutôt que pour Hillary Clinton. Et puis ça, il a très bien compris qu'il fallait tabler là-dessus, qu'il fallait tabler sur cette lassitude-là, sur ces victimes du libre-échange, des usines qui avaient dû délocaliser à cause du libre-échange, un discours que Bernie Sanders maîtrisait avec beaucoup plus d'intelligence que Trump par ailleurs, mais que Trump savait qu'en amenant des solutions peut-être un peu simples devant ce même électorat-là, à tout le moins, il y en a qui perdraient leur enthousiasme d'aller vers Hillary Clinton, ce qui fait qu'il a emporté ces États-là, ces États clés par des poussières le soir des élections.
D'accord, mais néanmoins, je vous repose la question. Si vous avez répondu avec un coup de billard, c'est-à-dire non pas par Mélenchon, mais par Sanders. vous avez dit Trump, Mélenchon, Podemos, il y a manifestement, vous nous dites, il y a une... non pas une complicité, mais une correspondance discrète, une appartenance discrète de ces figures politiques pourtant très contrastées, un même camp, tout le moins une même tendance. Je vous demanderais de développer un peu.
Dans le cas de Trump, je pense que c'était simplement des promesses électorales. Parce qu'on le voit maintenant qu'il est au pouvoir, il s'est entouré de milliardaires pour former son gouvernement, il déréglemente les banques au maximum, les hedge funds, il leur dit « faites ce que vous voulez, c'est comme ça qu'on va croître ». Donc, quand je vous disais que cette critique-là, pour faire le lien avec votre question précédente, c'est que cette critique-là, aujourd'hui, dans l'espace public à tout le moins, porte davantage sur les conséquences que sur les causes. Donc, vous avez des phénomènes extrêmement différents, comme Trump et de l'autre côté Sanders ou Mélenchon ou Podemos, mais qui, en réalité, puisent en quelque part leurs sources vers le même problème. Puis rendu là, il y a toute une construction sociale de l'opinion publique qui vient et qui va avoir des manifestations extrêmement différentes, que ce soit les mouvements de droite populiste ou dites de gauche populiste. Et j'utilise vraiment ces étiquettes-là au sens commun, là, parce que je les conteste au fond, là, mais je vous parle néanmoins au sens médiatique communément admis. Mais en réalité, il manque de profondeur derrière tout ça. Il manque de profondeur. Parce qu'il y a, même si on voulait envisager un retour à l'étonation, comme dans les années de forte croissance, les années d'après-guerre, d'essor d'une société de la consommation où tout le monde venait de se doter d'un téléviseur, tout le monde commençait à se doter d'un frigidaire, et tout le monde commençait à avoir une automobile, on n'en est plus à cette époque-là. On en est à une époque où la crise écologique n'est quand même pas un mythe. Ce n'est quand même pas quelque chose, même si certains le pensent, ce n'est pas quelque chose qui repose complètement sur du vent. Et l'influence humaine, à mon sens, va de soi.
Alors, donc là, vous me dites, il n'y a pas de contre-modèle, cela dit autrement dit. Vous me parlez de la crise écologique qui peut servir, qui alimente ce sentiment d'un dérèglement du système capitaliste aujourd'hui. Mais si je vous ramène à la question, y a-t-il aujourd'hui des contre-modèles dans les courants que vous étudiez, dans les mouvements que vous analysez? Est-ce que je comprends que spontanément, votre solution de repli ou de défense, c'est la reconstruction de l'État-nation et de ses capacités d'action collective.
Mais sous une nouvelle forme.
Mais sous une nouvelle forme, naturellement. Mais cela dit, je crois que vous nous dites aussi que les José Bové, et on sait aussi que c'est le cas d'autres mouvements, ne veulent pas de l'État-nation. Donc, partagent probablement certaines de vos critiques, mais ne veulent pas de retour même d'un État-nation rénové et réinventé. Alors, que veulent-ils?
Que veulent-ils? Ben écoutez, dans leur cas, dans le cas des altermondialistes, c'est la grande contradiction, c'est que ce n'est pas très clair non plus. C'est que si on veut une autre mondialisation, il faut qu'il y ait une représentation démocratique. Donc, prônent-ils un gouvernement mondial, un parlement mondial? Je ne suis pas convaincu que certains l'aient déjà proposé. Mais il y a tout le moins un dépassement de la nation qui revient à un dépassement de la démocratie dans ces mouvements-là. C'est le grand problème de ces mouvements-là qui, à mon sens, tourne en rond. Puis on parle là seulement de la question des altermondialismes. On pourrait parler d'une certaine gauche aussi qui gravite dans plusieurs cercles et qui cherche à tout prix à tout déconstruire l'ensemble des repères communs que nous pouvons avoir, que ce soit la famille, que ce soit la nation, sous prétexte de conservatisme, sous prétexte de vieilles structures réactionnaires et qui, dans les faits, en viennent à servir aussi ce capitalisme en prônant finalement une espèce d'individu déraciné qui flotte dans le vide.
Donc, vous nous dites que finalement, si on étudie le thème de la critique du capitalisme aujourd'hui, il n'y a pas vraiment... Même ceux qui le critiquent, quelquefois même très sévèrement, n'ont pas de discours global ou de propositions globales alternatives à proposer. Est-ce que je vous comprends bien?
Pas tout à fait. C'est que je vous ai fait une critique de l'anticapitalisme.
D'accord.
Tout en vous ayant fait avant une critique du capitalisme lui-même.
Bien sûr. Donc, mais alors, je vous pose la question toute simple. De manière très descriptive, quand on rentre dans la tête de ceux qui, d'une manière ou de l'autre, aujourd'hui, on peut penser aux gens qui étaient autour de Nuit Debout, Frédéric Lordon, par exemple, tout ça, d'autres, qui nous disent le temps du triomphe du capital est terminé, bon, très bien, par quoi le remplace-t-on? La question est ouverte et je vous demande d'y répondre.
Ben écoutez, justement, les mouvements français comme ça, comme Lordon, les mouvements autour de la démondialisation, qu'on pense à Frédéric Lordon, qu'on pense à Jacques Sapir, qu'on pense à Aurélien Bernier, par exemple, ce sont des gens qui ont quand même pensé une forme d'alternative. Il est très clair, par exemple, en lisant le dernier petit livre d'Aurélien Bernier, que il faut à la fois revenir à l'État-nation, mais que ce serait impensable si on n'envisage pas aussi des changements à l'échelle globale. Et ces changements à l'échelle globale, ils passent, à mon sens, puis je vous le dis en scoop pour le dire en bon français, je prépare une petite plaquette sur la question du libre-échange mondial, et il pourrait y avoir une forme de réforme à l'échelle mondiale de la manière dont on entrevoit le commerce. Parce que ce commerce-là, ce système mondial-là, autour de l'OMC, du principe de la libre circulation des marchandises, et aussi autour du principe qu'il pourrait y avoir une espèce de constitution économique mondiale, que les États membres seraient astreints à la respecter, que aussi, il y a même depuis les années 90 avancées, il y a même un tribunal mondial autour de l'OMC. Qui est chargé d'en appliquer les préceptes pour s'assurer qu'il n'y ait pas... C'est un petit peu des espèces de préfets de discipline pour s'assurer qu'aucun État ne contourne ces principes. Alors, mais il pourrait y avoir une alternative qui serait pensée, puis je vous dirais même que cette alternative-là, elle n'est pas qu'utopique, elle est pas assez proche d'exister. Après la Seconde Guerre mondiale, les pays se sont rejoints à La Havane. Une fois, j'avais écrit un texte qui parlait du modèle alternatif de La Havane. Plusieurs ont pensé que c'était le modèle de la Cuba de Castro. Ce n'est pas le cas du tout. Castro était très loin, était à 10 ans d'être au pouvoir, et plus de 10 ans d'être au pouvoir à ce moment-là. Mais à La Havane, les pays s'entendent sur un modèle de commerce mondial où on vise la coopération, où l'objectif central n'est pas le commerce en lui-même, mais le plein emploi. À l'époque, c'était l'objectif. Il n'y avait pas de crise écologique, donc c'était surtout de mettre fin au chômage, l'objectif. Et on respectait, c'était écrit textuellement, on respectait que chaque pays puisse fixer ses propres priorités nationales. On respectait aussi, c'était écrit textuellement, que si cet abaissement des droits de douane au nom de la libre circulation des marchandises venait à entrer en contradiction avec les objectifs de développement humain, on le suspend. On respectait que le protectionnisme, dans certains cas, puisse s'adopter. Donc, on est loin de l'espèce de religion mondialisée, libre-échangiste d'aujourd'hui. Donc, c'était finalement le commerce si nécessaire, mais pas de commerce si ça entre en contradiction avec l'être humain.
Et ça a avorté pourquoi, ça?
Ça a avorté parce que les États-Unis ont refusé de ratifier la Charte de La Havane, finalement.
Mais, alors, je vous entends, mais ce que j'entends de votre propos, ce que je comprends de votre propos, c'est mon Pierre Savard Tremblay, c'est que si les critiques actuelles du capitalisme veulent le contenir, le modérer, l'encadrer, peut-être même l'humilier, le ramener ses prétentions à la baisse, il se situe néanmoins dans l'imaginaire du capitaliste. C'est-à-dire qu'ils veulent davantage le domestiquer que le remplacer. Est-ce que c'est exact?
C'est-à-dire qu'il faut, éviter tout d'abord de confondre le capitalisme et l'entreprise privée. Parce que c'est deux choses. Une entreprise capitaliste, n'est pas nécessairement capitaliste, parce qu'il peut y avoir, par exemple, regardez un Jean-Martin Hossan qui nous parle d'économie sociale et solidaire, le modèle des coopératives. Donc, techniquement, il pourrait y avoir une économie seulement composée d'entreprises privées, mais qui ne serait pas capitaliste, dans l'absolu. C'est quelque chose qui est possible, qui n'est pas impossible. Par contre, là où le problème de toutes les coopératives du monde, et regardons les caisses populaires des jardins, qui aujourd'hui se comportent comme une banque à part entière, qui joue de la financiarisation et qui, comme toutes les banques, vivent par l'endettement de leurs particuliers beaucoup plus que par les investissements. Si on ne change pas d'une certaine façon le système financier mondial, ça va revenir au même résultat. Toute coopérative va se transformer en entreprise capitaliste, ultimement. Si on ne change pas le système financier, puis cette financiarisation de l'économie-là, qui est devenue une folie à tout prix, on va toujours revenir au point de départ. Parce qu'aujourd'hui, nous en sommes avec cette financiarisation-là, qui est un terme qui est employé par plusieurs.
Oui, d'ailleurs, je vous demanderais de définissez-leur.
Écoutez, aujourd'hui, l'économie financière a 10 fois plus de poids que l'économie réelle. C'est-à-dire que l'économie repose aujourd'hui 10 fois plus sur les activités de spéculation, les activités financières, que sur la production réelle. Puis vous avez des entreprises, par exemple, comme Siemens, ou comme General Motors, où les activités productives en elles-mêmes sont négligeables, sont symboliques, qui vivent avant tout par les activités financières. Donc, c'est une espèce de... Vous connaissez le fameux proverbe « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras ». Disons que les tenants du système financier mondial ont oublié ce principe élémentaire parce qu'on repose toujours sur une promesse de profit à venir plutôt que sur une production réelle.
Alors là, vous montrez qu'il y a une volonté de contenir, une volonté de civiliser. Vous nous expliquez qu'on ne doit pas tout mettre dans le même sac. Néanmoins, une question me revient sans cesse. C'est cette absence d'alternative globale. Pardonnez-moi d'y revenir, mais je crois que c'est une question qui est assez centrale là-dedans. C'est-à-dire, il y a des alternatives qu'on dit locales. Vous avez parlé du modèle coopératif. Il y a des alternatives qui sont, on pourrait dire, plus conservatrices, contenir finalement le libre-échangisme par la restauration de l'État-nation. Il y a différentes alternatives. Il y a différentes... Autrement dit, on multiplie les freins. Mais nous ne sommes plus capables, je crois, d'imaginer un monde qui fonctionnerait à l'extérieur de la logique donc de l'économie de marché, de la propriété privée, de la liberté des échanges, et ainsi de suite. Nous pouvons différer, nous pouvons être en désaccord sur l'ampleur de ce déploiement, mais rares sont ceux qui, finalement, voudraient congédier ce modèle.
Pas nécessairement. Ben, c'est-à-dire, rares sont ceux. C'est-à-dire, comme...
À tout le moins, qui se croient capables de le congédier.
Ben, c'est quelque chose de complexe. C'est évident que c'est quelque chose qui se fait à tous les niveaux. Et c'est peut-être avant tout même un travail intellectuel, un travail de remise en question de beaucoup de préceptes, de beaucoup de statistiques officielles, de beaucoup d'instruments qui construisent l'opinion publique. Donc c'est un travail très, très patient, très, très long, très, très difficile, oui, très, très complexe aussi, là. Sauf que cela dit, quand il y a des crises financières ou des crises économiques qui surviennent, il y a toujours une forme de timing, si vous me passez l'expression, pour remettre en question la plupart de ces préceptes-là. On peut dire qu'à chaque fois, ça a peut-être été des rendez-vous manqués. En tout cas, du moins, la dernière crise de 2008, ça a été un rendez-vous manqué, parce qu'on s'est contenté de renflouer les banques pour les sauver de la faillite, qui fait qu'aujourd'hui encore, ces mêmes banques sont plus puissantes encore qu'à l'époque, et Trump est en train de leur donner encore plus de pouvoir. On s'est contenté momentanément... Parce que là, il y a quand même une chute du commerce mondial. On s'est contenté momentanément de réhabiliter l'État, ce qu'on brûlait encore hier. Mais peu à peu, ça prend peu de temps qu'on revient dans les bonnes vieilles habitudes. Et vous avez aujourd'hui, par exemple, toujours les mêmes dogmes, les mêmes dogmes et les mêmes slogans dominants qu'à la veille de la crise financière de 2008. De même que les mêmes habitudes. Regardez les États-Unis en ce moment. Je ne sais pas où la prochaine crise va se situer. Est-ce que ça va se situer aux prêts aux automobiles? Est-ce que ça va se situer dans les prêts étudiants? Ou est-ce que ça va se situer dans les cartes de crédit? Mais c'est trois domaines où l'endettement est en train de devenir extrêmement important, puis ça pourrait exploser demain matin.
Je vous déplace vers une question qui me semble assez fondamentale.
Oui.
On dit souvent que le capitalisme, dans le discours d'une certaine gauche, peut-être un peu usée, même assurément usée, on dit que le capitalisme est au service de la réaction. On en fait un élément fondamentalement conservateur. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, à la suite d'autres auteurs, que finalement le capitalisme, tel qu'on l'a connu depuis le début des années 90, est fondamentalement révolutionnaire?
Absolument.
C'est-à-dire qu'il... Il travaille à la liquidation par ce qu'on appelle le phénomène de marchandisation, c'est-à-dire ce qui était autrefois hors du domaine de la marchandise est annexé au domaine de la marchandise. Donc on peut le voir, par exemple, sur le plan dans les services funéraires, dans tout ce qui est symbolique, dans tout ce qui relève de la vie même quelquefois. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le capitalisme est en train de devenir aujourd'hui, à moins qu'il ne l'ait toujours été, me répondrez-vous, est-ce qu'il n'est pas en train de devenir révolutionnaire, c'est-à-dire de détruire l'ensemble des structures qui le contenaient, et est-ce qu'il n'est pas en train, lui, d'accomplir les promesses d'une certaine modernité qui fabrique des individus hors sol, déracinés, sans frontières, prétendant s'auto-engendrer, refusant toute forme de sécurité et croyant ainsi être libres alors qu'ils le sont peut-être moins qu'on ne le croit?
Absolument, absolument. Écoutez, le capitalisme, c'est une révolution économique et culturelle globale qui a toujours besoin de remettre en question les structures. Parce que la stabilité, c'est mauvais pour le système. C'est un système qui repose sur la mobilité la plus totale. Donc, il faut déconstruire les repères pour favoriser un individu qui soit interchangeable, qui puisse passer d'un emploi à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une usine à l'autre, d'un contrat à l'autre. C'est beaucoup ça, parce que le système d'aujourd'hui est extrêmement flexible. Le modèle Uber de « on accumule les petits contrats, on accumule les différents boulots, un après l'autre ».
En présentant ça comme une opportunité de liberté immense pour un individu.
Exactement, c'est ça. Donc on favorise, on dit « aujourd'hui c'est le modèle du citoyen du monde, il faut qu'il puisse circuler, passer de San Francisco à Paris, et en passant par Los Angeles, et avec un petit détour à New York, avec un petit passage à Londres au passage pour prendre un petit café en après-midi. C'est le modèle aujourd'hui du citoyen du monde ». Puis le capitalisme a absolument besoin de ça. Donc, c'est pas, ça peut pas être réconcilié avec une espèce de mode de vie plus traditionnel, une espèce de respect, disons, comme peut-être comme le capitaliste comme il l'était au début du 20e siècle, c'est-à-dire le 9 à 5, où on fait la différence entre 9 et 5, je suis au travail, je me dévoue à ça, et le soir, je suis avec la famille et les amis, et la fin de semaine aussi.
Sommes-nous alors devant une double contradiction, c'est-à-dire, je précise, on a d'un côté une droite libérale qui quelquefois défend à la fois l'économie de marché, une droite libérale conservatrice, disons, qui défend l'économie de marché et les formes de vie plus traditionnelles, que ce soit la nation, la famille, la communauté, ainsi de suite. Et de l'autre côté, donc, qui cherche à défendre ces structures-là, mais tout en embrassant le capitalisme qui peut les détruire, alors que de l'autre côté, on aurait une gauche qui cherche à détruire ces structures plus traditionnelles, qui peuvent résister au capitalisme, mais qui prétend aussi lutter contre le capitalisme. Est-ce qu'on n'est pas dans cette espèce de situation
absolument
double?
Oui, absolument. Ben, écoutez, au niveau de la droite conservatrice, c'est encore plus flagrant. Écoutez, j'écoute régulièrement des stations de radio qu'on dit conservatrices au Québec, et j'entendais encore pas plus loin qu'il y a deux semaines être d'accord avec la robotisation de l'enseignement au Québec. Oui, au nom des entreprises, au nom du fait que c'est bien d'apprendre à des enfants à programmer, à faire du programmage informatique.
Qui disait ça?
Écoutez, il y a des animateurs de ma région d'origine qui est Québec, que je ne nommerai pas, mais qui, j'entendais, on trouvait ça formidable, on trouvait que c'était intéressant, on trouvait que c'était bien parce que ça allait faire de nous des géants. On pouvait faire du rattrapage, arrêter de penser petit, nous disait-on, arrêter de penser petit Québec pour faire du rattrapage dans l'économie, parce qu'on était en retard sur le Canada. Ça les choque beaucoup d'être en retard sur le Canada, sur le reste du Canada. Et puis, écoutez, le meilleur exemple que je pourrais donner là-dessus, et puis je peux peut-être même vous renvoyer d'une certaine façon la balle, parce que, dit-on, vous êtes conservateur, il y a des rumeurs à l'effet que vous le seriez, et certains disent que vous êtes de droite, c'est quelle est la position, disons, de droite ou conservatrice cohérente par rapport au travail le dimanche? Est-ce qu'on est pour ou on est contre?
Non, on a ce débat-là en France, on l'a vu ces dernières années, c'est-à-dire...
Parce que la position conservatrice serait d'être contre. La position conservatrice serait d'être contre et la position de droite économique serait d'être pour, au nom de la liberté d'entreprise, tandis que la position conservatrice serait d'observer une saine journée de repos, de calme, de ne pas chercher la productivité maximale, la croissance à tout prix.
Mais est-ce que, de ce point de vue, est-ce qu'on peut pas croire que la critique du capitalisme est aujourd'hui complètement impuissante, dans la mesure où ceux qui veulent le critiquer ne se donnent pas les moyens de le critiquer, et ceux qui l'embrassent ne se rendent pas compte qu'il détruit ce qu'ils aiment?
Ben écoutez, il faut à la fois, effectivement, toujours... je sais pas ce qui est le plus simple en t'expliquer à quelqu'un de gauche que, disons, son libéralisme... culturel, si on peut dire, sert le libéralisme économique qu'il prétend défendre, ou expliquer à quelqu'un de droite que son libéralisme économique combat le conservatisme social qu'il prétend défendre aussi. Je ne sais pas ce qui est le plus simple entre les deux, mais effectivement, il y a une double contradiction. Et puis ça me fait toujours dire que la question du fameux clivage gauche-droite est en une vue de l'esprit qui, à mon sens, est complètement dépassée.
Est-ce que cela dit, vous, dernière question avant la pause, est-ce que
déjà?
Bien sûr, nous arrivons à la pause, ensuite on abordera un tout autre aspect de cette question.
D'accord.
Mais je vous ramène une dernière fois sur la question politique de la chose. Dans quelle mesure croyez-vous qu'aujourd'hui un parti qui se réclamerait d'une forme de protectionnisme décomplexé pourrait avoir de l'écho ailleurs qu'aux États-Unis? C'est-à-dire, aux États-Unis, l'Empire a les moyens du protectionnisme à certains égards. Mais et croyez-vous qu'au Québec, j'ai cru comprendre un jour en vous lisant que vous croyez que si le libre-échange tombait, ce ne serait pas si mauvais que ça pour nous d'une manière ou de l'autre. Croyez-vous qu'il puisse y avoir un écho, un discours sceptique par rapport au libre-échange, même dans une petite société comme la nôtre qui en a profité?
Combien de temps me laissez-vous, là?
Vous avez une minute et demie.
Ouf, OK, on va essayer. En fait, ce que j'ai dit, c'est que si l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, tombait, c'était pas si grave parce qu'on tombait à l'accord de libre-échange donc entre les États-Unis et le Canada, et qui faisait sauter les clauses les plus dangereuses de l'ALENA. C'est là-dessus que j'ai dit que c'était pas si grave. Ceci dit, dans le cas du Québec, effectivement, nous sommes une petite société. La libre circulation des marchandises nous sert sur plusieurs secteurs. Moi, je suis bien pour qu'on reconnaisse les vertus dans certains secteurs, mais pas qu'on en fasse une religion totale. Et surtout, le libre-échange contemporain n'est plus du libre-échange. Joseph Stiglitz, le grand économiste, qui n'est pas un utopiste, qui a quand même été à la Banque mondiale, qui est quand même quelqu'un qui comprend bien ce système-là, avait dit « Les accords contemporains ne portent plus sur le libre-échange. It is about many things, but free trade, not so much. » Ce sont des accords non plus sur la libre circulation des marchandises, mais sur la marchandisation totale des sociétés. Et c'est là-dessus que d'enfant un conflit entre libre-échange et protectionnisme est fallacieux, parce que ce n'est pas ça la question.
Alors, si bon Pierre,
c'est le contrôle démocratique.
Nous revenons après la pause pour la poursuite de cette discussion sur la question de l'avenir de la critique du capitalisme aujourd'hui.
Radio VM, au cœur de l'essentiel.
Chers amis, nous sommes de retour à la Vie des idées pour la deuxième partie de cette émission avec Simon-Pierre Savard-Tremblay, consacrée aux critiques contemporaines du capitalisme. Alors, on a évoqué en première partie ce qu'on pourrait appeler les formes plus classiques de la critique du capitalisme, sa dimension politique aussi à certains égards, la difficulté de trouver un système alternatif pour ceux qui en voudraient un. On a aussi réfléchi, on a aussi eu l'occasion de parler de la double faillite de la gauche et de la droite, tout le monde, une certaine gauche et d'une certaine droite qui sont incapables de critiquer, qui finalement embrassent le capitalisme ou le critiquent, mais finalement tirent toujours contre leur propre camp d'une manière ou de l'autre. Dans cette deuxième partie de l'émission, j'aimerais aborder avec Simon-Pierre Savard-Tremblay une question qui me semble laissée de côté trop souvent, mais qui est celle, ce qu'on pourrait appeler, de l'aspect déshumanisant et sur le plan culturel et social d'un certain capitalisme. Et je prendrai comme exemple la toute récente sortie de la question du nouveau, vous savez, c'était sur le iPhone, comme on dit. Alors, qui suscite une passion chaque fois qu'un nouveau iPhone arrive, il y a une ruée vers le nouveau joujou qui peut coûter un prix de fou, mais ce n'est pas grave. On a l'impression d'avoir le nouvel instrument qui va permettre à nos vies d'être bouleversées pour le meilleur et pour le pire, d'être changées, d'être bouleversées, tout ça. Et on sait par ailleurs, donc il va coûter très cher à ce qu'on en sait aussi, mais on sait aussi que très probablement il sera obsolète d'ici un an, d'ici deux ans, d'ici trois ans, ce qui nous ramène à la fameuse question de l'obsolescence programmée dont on parle souvent. Alors Simon-Pierre Savard-Tremblay, je vous pose la question, on parle souvent d'obsolescence programmée, est-ce que le cas du nouveau iPhone dont on parle est un bon exemple de cela? Et si oui, qu'est-ce que l'obsolescence programmée, qu'est-ce qu'on entend par ça?
Écoutez, le fameux nouveau iPhone en est un cas flagrant. Alors écoutez, là, je comprenais dans votre préambule que vous incarnez aujourd'hui le Pierre-Yves McSween de Radio VM.
Je n'irai pas jusque-là.
Ou alors c'est Pierre-Yves McSween qui est le Mathieu Bock-Côté de toutes les autres stations. C'est ça. Là.
Je ne dirais pas ça non plus. Nous sommes chacun singulier.
Alors bien sûr. Alors, mais il a posé une bonne question avec son livre, En as-tu vraiment besoin? Parce que c'était quand même, c'est un livre qu'on peut dire, bon, c'est quand on le lit, c'est un livre grand public, ça peut paraître banal, ça peut paraître des évidences, mais ça fait du bien parfois de se rappeler ce genre de choses-là, ce genre de quand on lit ça. Puis souvent, on en vient à se poser la question. Mais là, c'est que cette histoire d'obsolescence programmée, il faut savoir que vous souvenez sans doute des premiers Motorola, les gros téléphones qui s'ouvraient là, avec c'était de gigantesques téléphones cellulaires.
La taille d'un tank.
Eh bien, écoutez, ils fonctionnent encore aujourd'hui. Ils fonctionnent. Si vous en avez un d'époque, il va fonctionner encore aujourd'hui. On est très loin des cellulaires actuels, des cellulaires dits intelligents que nous avons aujourd'hui, sur lesquels reposent toutes nos vies. Et puis d'autant plus que sur ces cellulaires-là, quand vous cochez les conditions, vous allez télécharger par exemple une application qui va compter le nombre de pas que vous allez faire dans une journée et qui va calculer votre pouls. Une application pour vous mettre en santé, par exemple. Quand on lit les conditions, on se rend compte que les données sont envoyées en quelque part dans un pays en développement, que les données sont en possession de la compagnie à quelque part, qu'ils vont posséder vos informations et votre localisation. C'est un peu inquiétant quand même tout ça. Mais de manière plus large, la question de l'obsolescence programmée dépasse de beaucoup les cellulaires intelligents, bien que ça en soit un cas flagrant. Il faut savoir que c'est aujourd'hui, il y a, avant de revenir sur l'origine, sur le premier cas connu de l'obsolescence programmée, il y a aujourd'hui, à Livermore, en Californie, dans une caserne de pompiers, il y a une ampoule qui brille encore depuis le début du 20e siècle, encore aujourd'hui.
C'est un cas qui est assez connu, je crois.
Qui est assez connu. Une ampoule qui vivrait plus de 100 ans, c'est aujourd'hui impensable pour les habitués de chez Rona ou Renault Dépôt, que vous et moi êtes sans doute, que vous êtes sans doute également, mais que je suis également. Il faut bien acheter nos ampoules en quelque part. Et pour nous, ça paraît impensable d'imaginer une ampoule qui brillerait pendant plus de 100 ans. C'est que les cartels de fabricants d'ampoules, au début du 20e siècle, ont fait savoir aux scientifiques qu'il fallait désormais que leur sens de l'innovation, que leur intelligence scientifique, soit mobilisé non pas pour penser la technologie la plus durable possible, mais pour penser celle qui soit la moins durable possible. Donc, on leur a dit de trouver une manière qu'il y ait une espèce de sabotage programmé, d'obsolescence.
Mais ça, ça relève de la théorie du complot ou c'est
pas du tout. Écoutez, il y a un documentaire dont le nom m'échappe, mais très, très intéressant. C'est documenté. Qui est paru là-dessus il y a quelque temps. Et le simple fait, je crois, qu'on sache que des ampoules brillent encore depuis 100 ans contredit cette possibilité-là. Bon. Et on sait aussi, d'ailleurs, puis ça, ce qui est documenté également, c'est que les scientifiques ont à l'époque proposé aux marchands d'ampoules des technologies durables à prix égal, mais que ça a été refusé. Parce que la logique de ce capitalisme de consommation-là, vous avez donné l'exemple avec l'iPhone, il nous faut à tout prix avoir le prochain, même s'il n'est pas particulièrement différent de l'autre, peut-être parce qu'il y a un demi-pouce d'écran de plus, puis ça va tellement être formidable de télécharger nos films dessus, ou je ne sais quel gadget inutile qui va s'ajouter. Mais c'est cette logique-là, c'est que pour que le système fonctionne, s'alimente, s'auto-alimente constamment, ce système de consommation-là, sur lequel repose la croissance, il faut que votre frigidaire plante, si vous me passez l'expression, à tous les 7 ans, il faut que votre télé plante à tous les 3 ans, que votre ordinateur à tous les 2 ans et que votre cellulaire à toutes les années et demie. C'est la logique même. C'est la logique même. Puis tout ça, c'est cette croissance-là où on nous dit « oui, mais il y a une croissance du PIB avec tout ça », nous dit-on. Le PIB fonctionne bien. On produit, on achète. C'est là-dessus où il faut peut-être revoir en question notre définition de ce que c'est créer la richesse aussi.
Donc, si vous nous parlez de la logique d'un monde jetable, en quelque sorte, d'un monde qui n'est pas fait pour durer, on entend quelquefois, bien que ce soit pas nécessairement la trame dominante du discours public, que cette espèce de frénésie consommatrice pousse aussi à des comportements sociaux de plus en plus ensauvagés. Je donne un exemple qui est devenu presque classique, c'est le Black Friday, si je ne me trompe pas.
Oui, je vous rappelais peut-être d'un film avec Arnold Schwarzenegger qui s'appelait « La course aux jouets ».
Non, mais je constate que vos références cinématographiques ne sont pas à votre honneur.
vous n'aimez pas Arnold, j'ai des preuves contre vous là.
Mais alors, je reviens sur cet élément, c'est-à-dire on voit le Black Friday où on voit des centaines, des milliers de personnes devant un magasin qui sont vraiment accumulés là et qui vont rentrer dans le magasin comme s'ils partaient à la conquête de la chose la plus indispensable qui soit le poumon qui manque pour sauver leur vieille tante, le cœur manquant pour sauver leur beau-frère. Uh-huh. Donc une espèce de ruée massive. Est-ce qu'on peut pas croire quand on voit ça qu'il y a véritablement le capitalisme contemporain est connecté à une économie pulsionnelle, disons ça comme ça, qui ensauvage comme jamais la société, et si oui, pourquoi?
Absolument. Ben écoutez, c'est-à-dire que la question qu'on peut se poser, la question large, prenons tout d'abord l'exemple que vous donnez, cette espèce de bagarre, que ce soit le Black Friday ou que ce soit le Boxing Day, ces courses au rabais-là. Je trouve qu'on a perdu les repères fondamentaux, parce que moi, souvent, quand on va me dire « Ouais, t'as déjà acheté tel chandail, mais tu peux peut-être magasiner chez Simons, faut peut-être l'avoir moins cher, peut-être 10$ de moins, peut-être... » Mais je suis désolé, mais mon temps vaut mieux que ça. Mon temps vaut plus que les petites économies de bout de chandelle que je pourrais faire avec ça. Mais j'ai l'impression qu'on a perdu ce type de repère-là. Au nom, à tout prix, d'une espèce de je reprends le titre d'un récent collectif, une espèce de tyrannie de la valeur. C'est-à-dire qu'une espèce de fétichisme de l'argent qui vient avec tout ça. Mais il me semble qu'on pourrait aussi faire le calcul inverse, qui est de dire « je vais économiser du temps plutôt que de l'argent ». Peut-être que ça vaut davantage. Quand on dit « le temps, c'est de l'argent », peut-être que ça vaut davantage aussi être capable de respirer. On n'est pas seulement un rabais, on n'est pas seulement une machine, un espèce de robot à courir les rabais comme ça. Et quelle satisfaction l'être humain trouve-t-il à la fin de la journée, au final, d'avoir été une espèce de coureur des magasins? Mais la question qu'on peut se poser, c'est cette espèce de
mais
système.
Pourquoi ça fonctionne? Là, c'est la question qu'on peut se poser, c'est-à-dire, on peut avoir l'impression, je me souviens, je suis entré il y a peut-être 2-3 ans, un peu malgré moi, au Carrefour Laval, et j'ai l'impression d'être dans un camp de conditionnement massif où... la musique était rythmée, on a une presque de zombification lorsqu'on entre là, on se sent soudainement possédé par un environnement toxique qui nous agresse pour nous forcer à acheter d'une manière ou de l'autre. Mais alors ça, chez certains qui sont chanceux ou non, ça provoque un sentiment de dégoût, tant mieux pour eux, j'en suis à certains égards, mais je pense que là-dessus il y a pas de tout le monde en est frappé d'une manière ou de l'autre. Comment expliquer que ça fonctionne? Comment expliquer que ça fonctionne? Ben, c'est quand même frappant, c'est-à-dire la puissance de cette pression à la consommation permanente, névrotique. Qu'est-ce qui est derrière ça?
Il y a tout un conditionnement mental à la chose. Hein. Puis l'éducation, il n'est pas pour rien. Et puis ça, c'est pas seulement sur ce besoin de consommation-là. Je pense que le capitalisme, de manière générale, c'est un système qui a eu besoin d'envahir les systèmes d'enseignement, nécessairement. Nécessairement pour former des petits soldats de cette espèce de guerre économique mondiale qui se déroule, cette concurrence mondialisée. Maintenant, la question qu'on peut se poser, je reviens à votre question de base, qui est pourquoi ça fonctionne, c'est est-ce que la nature humaine est naturellement portée sur cette espèce de concurrence entre les uns et les autres? Si on fouille véritablement, par exemple, les travaux d'un anthropologue comme Marcel Mauss, on sait que non. On sait qu'à la base des sociétés qu'on pourrait appeler archaïques ou primitives, ne reposait pas sur le troc, donc sur l'échange marchand, l'échange d'intérêts, mais sur le don. Donc la nature humaine n'est pas foncièrement centrée sur ce capitalisme-là, sur cette concurrence à tout créer-là. Même Aristote, à l'époque, faisait la différence entre l'économie, qui était une manière finalement de faire... C'était l'organisation de la maison, c'est de faire vivre la maison, faire fonctionner la maison. Et il opposait ça à la crématistique, qui était l'art concurrentiel individuel de s'enrichir. Et paradoxalement, c'est quand la crématistique est devenue le système dominant, qu'elle a repris le terme de ce à quoi Aristote l'opposait, qui est l'économie.
D'accord. Vous me dites que l'école... Enfin, vous me dites d'abord que la société... L'être humain n'est pas fait pour ce système. Très bien. Vous me dites que l'école nous y conditionne peut-être, mais vous me pardonnerez de vous dire ça, mais j'ai l'impression que votre réponse est un peu courte. C'est-à-dire...
C'est un peu court, jeune homme.
L'école suffirait pour... Ce serait vraiment la pièce centrale.
Non, pas seulement.
Parce que quand on cherche à comprendre les comportements de nos contemporains, j'y reviens, c'est-à-dire la transformation des centres, enfin la puissance d'hypnose, en fait, d'une certaine idée de la marchandise, j'ai l'impression que les explications doivent aller au-delà de l'école.
Absolument.
Est-ce qu'on doit y voir, je sais pas, l'effondrement des transcendances religieuses, l'effondrement des transcendances politiques? Est-ce qu'on doit y voir une forme d'individualisme maximal qui fait en sorte que l'individu, pour remplir sa vie, a besoin de plus en plus de se jeter dans la consommation frénétique? Je lance des pistes comme ça, en vous les soumettant, pour chercher à comprendre qu'est-ce qu'il y a finalement dans ce consentement à la frénésie.
Ben, je vous ai donné l'exemple de l'école parce que c'en est un des exemples flagrants à quel point une institution a pu être dévouée de sa mission de base.
Dévoyée, vous voulez dire?
Dévié ou dévoyé, comme vous voulez. D'accord. Mais j'ai donné une espèce de concept hybride. Entre
bien sûr.
Alors, ben vous comprenez que c'est les deux à la fois. Alors, mais évidemment, je voulais parler de cette espèce de pédagogie généralisée. La vie est un processus de socialisation. Or, le capitalisme a tordu, si on peut dire, a, encore une fois, dévoyé ce processus de socialisation-là pour, au final, quand on regarde ça, maintenir l'enfant à l'état d'enfant, dans une espèce d'infantilisme perpétuel. Un infantilisme, parce que sont les enfants? Parce que souvent, on a tendance à idéaliser l'enfance, mais c'est une période où il y a une espèce de culte du pouvoir, il y a une espèce de culte de la domination, une forme un peu sans pitié de rapport qu'on a avec l'autre. On veut dominer son prochain quand on est enfant, et c'est avec l'école, c'est avec la famille, c'est avec l'expérience de vie, c'est avec le temps qu'on se socialise.
Mais vous trouvez pas que le capitalisme a le dos large ici? Parce que tous les projets pédagogiques de déconstruction des repères qui permettaient justement le passage à l'âge adulte, la survalorisation de l'enfance, la survalorisation des pulsions primitives, disons ça comme ça, le refus de la culture classique parce que bourgeoise, autoritaire, patriarcale et tout le tralala, ça vient pas d'abord de nos capitalistes. C'est vraiment un projet lié à la contre-culture des années 60-70. Et à l'époque, on pourrait dire que la bonne bourgeoisie conservatrice et capitaliste s'opposait à cette espèce de mouvement de déconstruction culturelle dont vous nous parlez. Est-ce que vous n'avez pas ici la mauvaise cible?
Ben, c'est-à-dire que vous avez raison que les marxistes sont probablement les premiers à l'avoir pensé. Quoique, je vous reviendrai peut-être
plus
sur quelques...
Plus les néo-marxistes, probablement.
Oui, plus les néo-marxistes, puis je vous reviendrai sur quelques exemples, par contre, qui viennent peut-être nuancer cette interprétation-là. Mais supposons que ce soit le cas, que cette espèce de courant dominant-là, d'infantilisation perpétuelle, de refus de la socialisation, sous prétexte que les structures seraient aliénantes, alors que c'est plutôt le contraire au final. Est peut-être venu des marxistes, mais le système capitaliste est un système intelligent. Il y avait un auteur qui s'appelait Luc Boltanski.
Mais je
peux
pas dire que moi, les marxistes comprennent dire la contre-culture.
La contre-culture, oui, bien sûr. Puis vous-même, vous l'avez documenté dans votre avant-dernier ouvrage, le multiculturalisme comme religion politique.
Mais vous évoquez Boltanski.
Oui, Boltanski qui lui a montré à quel point ce système-là, lui, il le traitait au niveau managérial, au niveau des corpus de textes managériaux, des années des Trente Glorieuses versus les années 90, et montrait comment ce système-là avait su s'imprégner de la critique du capitalisme qui le servait le plus potentiellement. Donc c'est un système qui a su merveilleusement se renouveler en récupérant ce qui la contestait et ce qu'il appelait la critique artiste, dont cette espèce de déconstruction permanente des repères sociaux. Des repères sociaux. Et qui dit déconstruction permanente des repères sociaux, dit une espèce d'enfant qu'on jette dans la mêlée, qu'on dit « vas-y, débrouille-toi toi-même ». Mais je dirais que c'est même plus compliqué que ça, c'est que les structures maintenant ne laissent plus seulement l'enfant à lui-même, ils construisent la concurrence comme système fondamental. Le but de ces des
mais états contemporains... Mais selon vous, ça ne correspond à rien du tout dans l'être humain, cette part de concurrence-là, cette espèce de... La nature humaine n'est pas aussi conflictuelle. Vous avez évoqué tantôt Marcel Mauss, mais on peut aussi se tourner vers les figures fondatrices de la modernité politique. On peut penser à Hobbes, qui voit dans la concurrence, et même la concurrence la plus...
La guerre de tous contre tous.
L'homme est un loup pour l'homme. On peut retrouver chez la valorisation des égoïsmes mutuels qui finalement servent le bien commun. On va retrouver ça chez Smith à certains égards.
Oui,
il y a aussi une autre anthropologie, pas nécessairement sotte, qui met de l'avant justement la nature concurrentielle, agressive et conflictuelle de l'être humain. Est-ce qu'on peut pas croire que de ce point de vue, le capitalisme s'accroche à cette anthropologie tout en cherchant à l'exprimer par le commerce plutôt que par la guerre, ce qui en a amené certains à dire que c'est un progrès?
Donc transposer finalement la guerre dans une guerre commerciale plutôt qu'une guerre militaire. Ben, c'était le grand mythe d'ailleurs, Montesquieu parlait de doux commerce. C'est véritablement les Lumières qui ont pensé tout ça, cette espèce de concurrence comme principe qui devait nous régir. Puis je voudrais rappeler même une fable qui s'appelait La fable des abeilles.
De Mandeville.
De Bernard Mandeville. Bernard Mandeville, lui, est un médecin à la base. Est un médecin qui écrit d'abord, puis on l'a oublié, avant d'écrire La fable des abeilles, il écrit un traité des passions hypochondriaques. Ce qu'il dit dedans, c'est qu'il ne faut pas réprimer les pulsions, il faut les assumer pleinement, les exposer, les exploiter, puis c'est comme ça qu'on devient finalement, qu'on est gagnant face à soi-même par rapport à ça. La fable des abeilles, c'est la suite logique de ce traité des passions hypochondriaques, parce que la fable des abeilles, j'en rappelle un peu l'histoire, c'est l'histoire d'une ruche d'abeilles extrêmement prospère, parce que la concurrence règne entre chacune. C'est une ruche, mais qui n'a aucune vertu par contre. Qui n'a aucune vertu. Et à un moment donné, les abeilles prient Jupiter, leur dieu, de les rendre vertueuses. Elles deviennent vertueuses et à ce moment-là, ça n'est plus productif, elles meurent de faim et c'est la catastrophe. Et la conclusion, c'est que les vices privés font la vertu publique. Tout ça remonte à ça. Ça avait beau avoir été traité comme un texte absolument scandaleux, mais même Adam Smith avait dénoncé ce texte-là, mais dans les faits, il reprend les mêmes postulats, Adam Smith. Dans les faits, c'est cette idée. Puis on a parlé longtemps de paradoxe Adam Smith parce qu'il a écrit il a aussi publié des textes et des écrits extrêmement contradictoires avec ces thèses de base-là. Mais c'est un paradoxe d'ailleurs qui me semble être irréductible, irrésolvable. Et puis on pourrait même remonter, si vous le voulez, à un autre auteur de la modernité radicale qui serait le Marquis de Sade. Le Marquis de Sade qui, dans un livre que vous avez peut-être lu, qui a été adapté par Pasolini à l'écran, qui s'appelait « Les 120 journées de Sodome », à travers toutes sortes de sévices sexuels, physiques, corporels et même scatologiques, c'était véritablement l'espèce de libération intégrale des pulsions.
Oui, la déconstruction de tout le système normatif d'inhibition des passions et des pulsions.
Oui, sauf que ça nous montre aussi que c'est un rapport de domination. Vous avez des riches qui en font un délire, qui capturent des enfants et des femmes et qui pratiquent ces sévices-là sur elles. Donc c'est finalement...
La libération des pulsions est une consécration de la tyrannie.
Oui, mais c'est ce qui est paradoxal là-dedans, c'est que plusieurs mouvements justement anticapitalistes, comme vous en parliez tout à l'heure, y ont vu, notamment pendant mai 68, dans les 120 journées de Sodome et dans la figure de Sade, y ont vu une espèce d'héros libertaire. Mais Pasolini, lui, dans son film, qui je le rappelle, appliquait les 120 journées de Sodome à la République de Salo, la République fasciste de Mussolini, montrait que dans une fable libertaire, il peut y avoir un potentiel fascisant. Donc, que dans les libérations, il peut y avoir une domination. N'est-ce pas là la base du capitalisme et de la concurrence entre les uns et les autres?
Alors, si...
D'une relation dialectique, pour reprendre le terme marxiste.
Ah, mon Dieu.
Ça vous fait plaisir.
Ne faisons jamais une conférence sans utiliser le mot dialectique. Alors, cela dit, donc, on en arrive dans les... Il nous reste environ 8 minutes.
Déjà, encore une fois.
Bien sûr. Alors, j'aimerais vous amener sur des, appelons ça, pardonnez la formule, pistes d'avenir.
Oui.
C'est-à-dire, on sent probablement chez nos contemporains, on parlait tantôt du rapport névrotique à la consommation, on sent aussi, il se peut que je me trompe dans ma description, mais on sent aussi qu'il y a une intuition de l'homme du commun et mortel, de l'aliénation dans laquelle il se trouve. C'est-à-dire le sentiment d'être pris quelquefois dans un système qui n'a pas de sens, le sentiment d'un vide existentiel, d'un vide moral, d'un vide spirituel.
L'air du vide, disait Gilles Politique.
Qui ne s'en désolait pas. Est-ce qu'on peut croire que de ce sentiment de trouble existentiel et presque spirituel dans le monde contemporain, il puisse y avoir là le carburant d'une civilisation nouvelle, d'une civilisation au sens d'une domestication nouvelle du capitalisme par des vertus de transcendant ou même d'une réponse politique pour être capable de calmer ces effets dévastateurs? Autrement dit, est-ce que le malaise aujourd'hui devant non seulement le libre-échange mondialisé, tout ça, mais devant un capitalisme qui gruge tout, ronge tout, marchandise tout, est-ce qu'il y a là le carburant possible d'une réponse politique?
Écoutez, la nature a horreur du vide, dit-on. Et c'est pourquoi le capitalisme a aussi, d'une certaine façon, remplacé ce vide-là par lui-même, c'est-à-dire par cette consommation, par ces espèces de placebos-là qui nous sont offerts. Donc, pour nous faire croire, finalement, d'une certaine façon, qu'on échappe à notre quotidien avec tout ça, qu'on achète, finalement, constamment des échappatoires à notre quotidien. C'est pas facile, puis c'est pas une tâche facile que de devoir expliquer, par exemple, aujourd'hui, à une famille que ce serait déraisonnable et que ça sert à rien d'avoir une troisième voiture. C'est toute une tâche qui est devant nous. C'est toute une tâche qui est d'expliquer aussi qu'il faut remettre en question la plupart des dogmes dominants. Puis on parlait du système qui repose sur la croissance. Prenons par exemple le PIB. Bobby Kennedy, qui est une figure qui a peut-être probablement beaucoup de choses à qui on peut reprocher beaucoup de choses, mais qui là-dessus avait fait un discours absolument flamboyant à un mois de son assassinat, où il disait « le PIB calcule tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue ». Mais je trouve que c'est un beau témoignage. Là, vous allez me dire, mon Dieu, Bobby Kennedy était conservateur. Bien, sur ce plan, c'est pas faux. Au sens où c'est un beau témoignage du fait qu'il faut peut-être apprendre ce que c'est que le véritable sens de la vie. Et puis, pour vous donner un autre exemple concret de cet emploi tordu du PIB-là, prenons par exemple certaines régions plus pauvres comme le Bangladesh, certains pays plus pauvres comme le Bangladesh, qui se sont fait spécialistes du traitement des déchets toxiques, des déchets électroniques, donc des centaines, des milliers de tonnes de déchets toxiques, de déchets électroniques leur sont envoyés à chaque année. Et on va enregistrer, parce que c'est une nouvelle activité marchande, on va enregistrer, soi-disant, une hausse du PIB. Donc on va dire la richesse augmentée.
Où vous lire récemment disant que le calcul de la drogue et tout ça était aussi calculé, selon certains voulaient l'intégrer dans le calcul de la croissance et ainsi de suite.
Ben écoutez, j'imagine que s'il y a légalisation de la marijuana, ça va être compté comme une nouvelle
richesse. Oui, mais quelquefois les activités clandestines et ainsi de suite...
Ah, ça, c'est possible. Mais d'habitude, c'est considéré comme le travail au noir, donc ça n'en fait
d'accord,
pas partie.
Mal con.
Mais théoriquement, je veux dire, si on veut être complètement cohérent, ce serait, selon la définition du PIB, parce que c'est une activité marchande, ça devrait entrer dedans, si on veut. Mais est-ce que ça ne vous dit pas à quel point c'est fou, tout ça? C'est comme, pour revenir à l'exemple du Bangladesh, ils ont beau avoir traité des déchets électroniques et enregistré une hausse du PIB avec ça. Ça dit quoi sur la santé des travailleurs qui vont devoir manœuvrer ça? Ça dit quoi sur les nappes phréatiques, les coûts sur le système de santé, les coûts environnementaux qui s'en viennent? Donc, il y a toutes sortes de coûts cachés comme ça qu'il va falloir débusquer. Donc, rendu là, le travail, il est effectivement intellectuel. Il faut creuser ça. C'est un travail aussi qui doit se faire dans l'espace public. Il y a beaucoup de démonstrations qui doivent être faites. Il y a beaucoup de modèles qui doivent être prônés, de modèles alternatifs qui doivent être débattus, beaucoup de débats qui doivent cesser d'être interdits. Et rendu là, je ne doute pas un seul instant qu'une fois que le travail de conviction sera fait, que la réponse politique ne sera qu'une formalité.
Donnez-moi un exemple de ces débats interdits liés au capitalisme, parce qu'on a souvent, on parle souvent de débats interdits sur des questions liées à l'identité, à la culture, mais là, vous nous dites, c'est les débats interdits liés au capitalisme. Donnez-moi-en quelques-uns.
Ben, le libre-échange en est un. Comme je vous disais, ce ne sont pas des traités de libre-échange, c'est des traités qui font du système économique une politique permanente, qui font que les signataires sont tenus de s'y tenir, ils sont tenus de respecter à la lettre près les clauses sous peine d'être devant les tribunaux. Et puis là-dessus, ça compte. Puis ça, c'est complètement... Il y en a qui disent que c'est une anomalie. Non, ce n'est pas une anomalie. La fameuse protection des investisseurs étrangers, qui fait qu'un investisseur étranger dans un État peut poursuivre le pays qui l'accueille s'il estime que ses profits sont lésés par les politiques environnementales, sociales, bref, d'intérêt commun.
Est-ce qu'on a des exemples de ça?
Absolument. Écoutez, prenez par exemple Philip Morris, qui a poursuivi l'État australien pour ses politiques contre le tabac. Mais c'est pas seulement, ça se limite pas à ça, parce qu'au moment où Philip Morris poursuit l'État australien pour ses politiques sur le tabac, ça fait en sorte que la Grande-Bretagne retarde le débat sur la question, en disant on veut pas avoir une poursuite nous aussi. La Nouvelle-Zélande, à côté, qui avait voté sa mise en place, avait dit finalement on va retarder, on va attendre de voir comment la poursuite aboutit. On a eu des exemples au Canada, beaucoup de poursuites en vertu de l'ALENA à cause de cette question-là aussi. Notamment, l'une des plus récentes, si je ne m'abuse, c'est la poursuite de Lone Pine Resource à cause du moratoire sur les forages dans les eaux du Saint-Laurent. Donc ça, c'est pleinement cohérent de dire, si nous sommes à un monde de mobilité totale, si les investisseurs sont les rois, c'est normal que eux, parce que l'ensemble des intérêts privés donnent l'intérêt général, c'est normal qu'on les libère maximalement puis qu'on les rende libres de tout et qu'on empêche surtout ces méchants États qui sont soumis aux populistes, qui sont soumis aux volontés nationales, aux volontés des populations, qu'on leur enlève leur capacité d'agir, parce que ces populations-là ne sont pas composées d'experts de l'économie, comme le seraient, par exemple, les commissions d'experts ou les hommes d'affaires eux-mêmes.
Vous dites le travail...
C'est ce qu'Hayek appelait le constitutionnalisme économique.
Est-ce que vous évoquez la nécessité d'un travail intellectuel durable pour transformer notre compréhension même du capitalisme contemporain. Quels sont les grands chantiers pour vous de cette critique intellectuelle, de cette critique sociologique et philosophique du capitalisme d'aujourd'hui? Vous avez parlé du libre-échange. Est-ce qu'on pourrait en évoquer d'autres?
Ben moi, je peux vous dire ce sur quoi je travaille peut-être. Allez-y. En ce moment. Je fais une thèse de doctorat en ce moment. Vous savez à quel point c'est un exercice long et ardu et qui nécessite une patience sans borne. Moi, je traite justement d'essayer de débusquer ce mythe des statistiques officielles, des grands classements. Il y a toute une industrie des grands classements qui nous disent les États qui sont les plus compétitifs les uns avec les autres. Donc là, les États sont en concurrence les uns avec les autres pour être le mieux placés dans ces rapports annuels-là, que ce soit par exemple celui du Forum économique mondial ou celui de la Banque mondiale, qui sont publiés sur une base annuelle. Alors là, les États se battent pour se conformer à des normes, parce que ce n'est pas qu'une évaluation, c'est un culte de la surperformance, comme des entreprises le feraient finalement. On regarde ce que nos concurrents font et notre but est d'être meilleur. On ne peut pas se contenter d'être bon et d'être rentable, il faut toujours être le meilleur. Mais quand on creuse un petit peu ces questions-là, on regarde que finalement tout ce qu'on demande aux États, c'est d'être le plus généreux possible avec les investisseurs, de lui offrir une main-d'œuvre qualifiée, donc transformation totale de l'éducation, de lui offrir des infrastructures, de ne pas lui exiger de redevances, de ne pas lui exiger d'impôts, de ne pas lui imposer trop de paperasse, tout ce genre de questions-là. Et évidemment que sur le plan réglementaire, les entreprises qui s'investissent à l'étranger soient pleinement libres.
Donc ces palmarès dont on nous parle souvent, de classement des États et tout ça, ont quelque chose de terriblement artificiel ou de construit idéologiquement.
Puis vous savez d'autant plus que dans le cas du Forum économique mondial, la majorité des critères du classement repose sur des sondages auprès des dirigeants d'entreprises. Donc, c'est un classement de la perception des milieux des affaires. Puis on nous présente ça avec le terme compétitivité pour que ça sonne scientifique.
Alors, Simon-Pierre Savard-Tremblay, nous arrivons à la fin de cette émission de La Vie des idées. Je vous remercie infiniment de votre présence à notre micro aujourd'hui sur cette question des critiques du capitalisme. Chers amis, nous nous retrouvons là.
Merci à vous.
C'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes docteur en sociologie, blogueur au Journal de Montréal, et vous animez ici l'émission Économie et socialisme à Radio-VM. Et nous nous retrouvons, chers amis, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de La Vie des idées.